Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du vendredi 18 décembre. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien parce que les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes. Il n'y a rien de finalisé, je vous l'ai dit dans l'introduction, mais les nouvelles sont vraiment encourageantes. Et d'autant plus, ce qui est le fun, c'est que ce soir, comme plusieurs d'entre vous, c'est peut-être le début des vacances de Noël. Bien, ça sera pour moi ce soir. Ça sera un retour, ma dernière, et retour le 4 janvier. Donc, on termine ça en beauté avec une nouvelle qui est fort intéressante. On va résumer tout ça. Martin McGuire est avec nous. Salut, Martin.
C'est ton cadeau pour tes vacances.
Ça n'a aucun bon sens, Martin. Juste pas
écoute,
de bon. On attendait ça depuis longtemps, disons.
Ça fait quelques soirs qu'on se parle, toi et moi. Eh bien, ce soir, c'est le bonsoir. C'est arrivé au cours de la soirée. L'Association des joueurs de la Ligue nationale et les propriétaires en sont venus à une entente de principe. Une entente qui va permettre à la saison de commencer le 13 janvier. Une saison qui va comprendre 56 parties. Un calendrier qui va faire en sorte que la division canadienne va survivre. Il y a de bonnes nouvelles également du côté de la santé publique. Je vais y revenir un petit peu plus tard dans notre conversation. Le temps de vous dire également que dans les faits, là, le camp d'entraînement va commencer le 3 janvier et que le 31 décembre, la veille du jour de l'an, les 7 équipes qui n'ont pu participer au tournoi éliminatoire cet été seront conviées à débuter leur camp, donc quelques jours avant les autres. Alors, l'entente doit être bien sûr entérinée par les joueurs. Au moment où on se parle actuellement, là, l'exécutif de l'Association des joueurs est sur un appel conférence qui n'est toujours pas terminé, mais semble-t-il en tout cas que ça va dans le bon sens du côté de l'Association des joueurs. Les propriétaires devront voter. Il n'y a pas de date encore qui a été arrêtée pour le vote des propriétaires, mais tout porte à croire que ça pourrait venir au plus tard, au début de la prochaine semaine, au tout début de la semaine.
Martin, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait arrêter le processus présentement?
Pour l'instant, ce serait par exemple que les propriétaires obtiennent pas la majorité, les deux tiers sur cette entente-là, ce qui serait très peu probable, et ce serait que l'Association des joueurs, en majorité, là, l'exécutif, refuse d'entériner cette entente. Ça aussi, au moment où on se parle, c'est peu probable. C'est pas impossible, mais c'est peu probable parce que, évidemment, l'exécutif qui a négocié avec les propriétaires sait exactement dans quelles eaux on était capable de se diriger pour avoir une entente. De toute façon, Jérémy, les problèmes financiers qui étaient le nœud du fait que ça a failli achoper il y a de ça deux semaines maintenant, là, pas tout à fait deux semaines, ont été mis de côté. Alors, ce qui restait à faire, c'est de trouver un terrain d'entente pour que le protocole soit en mesure de protéger la santé des joueurs et en même temps de leur garantir une certaine qualité de vie tout en les protégeant. Ça m'amène à te parler de la santé publique.
Exactement.
En milieu de soirée, j'ai eu des communications avec des gens qui sont près du dossier et qui m'ont confirmé qu'on est vraiment à une ou deux virgules d'approuver tout ça. En dernière minute, à la fin de la journée, là, ce qui restait à régler, c'était le protocole pour l'arrivée des joueurs outre-frontières qui gagnent le Canada. Ça, c'était le protocole qui restait à attacher de façon finale. Semble-t-il que la santé publique aurait accepté que dans cette portion de 14 jours, il y ait 7 jours d'isolement complet, les premiers 7 jours. Donc, si on veut commencer le 3 janvier, là on a des chiffres concrets. Là. Alors, ces fameux premiers 7 jours commenceraient le 26 décembre. Alors, à compter du 26 décembre, c'est 7 jours d'isolement complet à la maison pour le joueur. Ensuite, les 7 jours qui suivent et qui mènent au début de la saison et qui marquent le début du camp d'entraînement sont des jours où le centre d'entraînement du Canadien, pour ce qui est du Canadien et des autres équipes canadiennes, deviendrait le prolongement de la bulle. Mm-hmm. Alors, donc, les joueurs pourraient poursuivre leur quarantaine, mais tout en s'entraînant, et il y aurait bien sûr un certain protocole à respecter au niveau de la structure des entraînements et, bien sûr, des tests presque quotidiens.
Ce qu'on comprend également dans ce qu'on a eu comme nouvelle aujourd'hui en soirée, en fait, c'est que la division canadienne tiendrait le coup.
Oui.
Il y a 5 provinces qui sont impliquées. On pouvait lire que les 5 provinces travaillent ensemble également. Mais il y en a une qui est réticente. Exemple, si on dit, la Colombie-Britannique. S'il y a un club, les Canucks de Vancouver, qui ne peut pas jouer dans son amphithéâtre, ça arrive, là, les Sharks de San Jose, ça sera la même chose. Est-ce que eux seraient ça serait possible les voir aller aux États-Unis tandis que les autres clubs restent au Canada?
C'est pas impossible et ce serait. Et là, on est vraiment dans le conditionnel, Jérémy, puis on est vraiment dans les hypothèses rendues là. Mais ce serait pas non plus impossible que les Canucks puissent aller jouer dans une autre province au Canada.
Définitivement. Aller en Alberta, exemple.
Si la problématique, c'est la Colombie-Britannique et que l'Alberta n'est pas une problématique, les Canucks pourraient très bien élire leur domicile en Alberta s'ils le veulent. Mais là, on est dans l'hypothétique parce que selon le courant d'information que j'ai, moi, en ligne avec la décision de la santé publique, les dernières informations que j'avais me confirmaient que les 7 grandes villes, 5 provinces concernées par le retour de la Ligue nationale étaient alignées ensemble sur le même protocole.
C'est à souhaiter. Honnêtement, c'est à souhaiter qu'on soit en mesure de trouver des solutions au courant du week-end et que, j'imagine, les propriétaires votent là-dessus et que les joueurs votent là-dessus au courant du week-end pour qu'on ait un résultat final là, en début de semaine prochaine. Martin, oui, tu voulais ajouter?
Ce que je voulais ajouter, Jérémy, c'est que c'était nécessaire qu'ils accouchent de quelque chose au cours du week-end. Tant mieux si c'est arrivé ce soir, parce que si ça arrive comme ça un vendredi soir, ça donnera 48 bonnes heures là, pour procéder au vote et pour que les propriétaires puissent virtuellement se réunir. Là. Ça, c'est la chance quand même. Là. Il y a des avantages à cette histoire de COVID parfois. Là. Comme les réunions se font de façon virtuelle, ils sont pas mal plus faciles à organiser que si on devait mettre les propriétaires dans un avion et les déplacer là, en Floride ou à New York pour procéder à un vote. Alors, comme ça se fait virtuellement, là, ça devrait être assez facile d'organiser ça. Et de toute façon, Jérémy, il fallait que ça se fasse. Si on voulait mettre les choses en branle, mets-toi à la place là, d'un joueur là, qui réside en Europe. Là. Lui, il a besoin de savoir au moins 2-3 jours à l'avance quand est-ce qu'il va faire sa valise, quand il prend l'avion, puis quand est-ce qu'il arrive exactement. Alors ça aussi, il fallait que ça se règle pour ces cas-là. Puis même pour les joueurs d'outre-frontière, là, je parle bien sûr du côté américain, tu sais, il fallait à un moment donné qu'on puisse savoir à quoi s'attendre sur quoi se fixer. Puis j'ajouterais aussi qu'il y a un paquet de choses qui découlent. La programmation des réseaux de télévision, notre programmation également chez nous à Cogeco et toutes les stations de radio qui sont impliquées dans la diffusion des matchs, il fallait que le paquebot commence à tourner, Jérémy.
Ah, définitivement. Et en même temps, ça montre le sérieux aussi aux différentes santé publiques des provinces pour dire, voilà, nous avons une entente, nous attendons après vous, nous sommes en mesure de nous plier à vos recommandations, on veut juste que ça fonctionne. Quand tout le monde veut que ça marche, veut pas, c'est toujours plus facile de négocier dans ce temps-là.
Oui, puis tu sais, quand il y a de ça quelques heures à peine, là, la santé publique, l'Association des représentants de santé publique canadienne qui sont de juridiction provinciale, je le rappelle, hein, c'est pas Santé Canada qui approuve ça, c'est l'Association des représentants provinciaux. Quand ces gens-là ont retourné la Ligue nationale à leur devoir, là, c'est qu'ils savaient pertinemment que la Ligue nationale avait les moyens financiers et avait les ressources, autant au niveau des bras et des connaissances, pour élever le niveau de sécurité en ce qui a trait à la présentation des matchs et à l'encadrement des joueurs pour les matchs. Si on les a repoussés la première fois, c'est qu'on savait qu'ils pouvaient faire mieux. Et une source d'information, d'ailleurs, au cours de la soirée, me disait ceci, et je cite cette source, « Si la Ligue de hockey junior majeur du Québec a été capable de se conformer, nous ne voyons pas pourquoi la Ligue nationale ne pourrait pas le faire demain. »
Clairement. Écoute, Martin,
c'est ce qui est arrivé.
Je vais avec quelques petits détails, puis les commentes rapidement. Pas de match de préparation, ça, je pense qu'on en avait déjà parlé. C'était pas mal sûr.
10 jours de camp d'entraînement.
OK. L'alignement, c'est 23 joueurs plus 4 à 6 réservistes qui seront payés au salaire de la Ligue américaine, mais qui pourront être avec le grand club, pratiquer avec le grand club, mais 4 à 6 joueurs, taxi squad qu'on appelle.
Voilà, l'équipe de pratique en bon français.
Et l'option pour un joueur de ne pas jouer sera là également. Donc, on peut décider de dire, moi, je ne participe pas, comme on l'avait fait dans les dernières séries.
Oui, puis c'est tout à fait légitime que ce soit là de la part des joueurs, cette clause-là, parce que ça a été là pour la NFL, ça a été là pour le baseball. On sait que très près de nous, d'ailleurs, là, notre héros national, Laurent Duvernay-Tardif, a choisi de tourner le dos au jeu cette année dans la NFL. Alors, c'était tout à fait logique que la LNH propose la même chose dans l'entente.
Bon, mais Martin, écoute, ça résume bien les informations que nous avons obtenues donc dans début de soirée. Je te remercie énormément. Je vais t'écouter pendant la période des fêtes pour le championnat mondial de hockey junior. Oui. Ça nous mettra en bouche justement pour le début de cette saison qui est planifiée le 13 janvier.
Exactement. Puis moi, je veux donner rendez-vous aux gens demain, 16h, pour le dernier prolongation avant le temps des fêtes, émission que j'ai le plaisir d'animer avec Danny Dubé. Et bien sûr, on aura probablement plus de détails à vous donner demain, là, sur le coup de 16h, en ce qui a trait au contenu de l'entente. Commentaire de Danny, bien sûr, sur la question. Jacob Pelletier et André Tourigny, joueurs respectivement et entraîneur-chef d'équipe Canada Junior, seront également nos invités. On traite également, Jérémy, dans cette émission-là demain, de quelques agents libres qui, là maintenant, qui a une entente de principe, vont peut-être recevoir des coups de téléphone ou à tout le moins être capables de faire comme Anthony Duclair dans les derniers jours, de conclure une entente pour pouvoir jouer. Il y en a de très bons encore disponibles, puis on en parle justement demain à prolongation.
Bon, mais Martin McGuire, merci énormément d'avoir été avec nous et surtout, passe de joyeuses fêtes.
Jérémy, joyeuses fêtes et bonnes vacances.
Merci beaucoup, Martin.
Au revoir.
Au revoir. Nous aurons avec nous aux alentours de 21h35 Bruno Gervais qui va commenter la situation et on prendra vos appels, je le souhaite, aux alentours de 21h45. Honnêtement, je veux juste vous entendre réagir là-dessus. Souvenez-vous, la première fois que l'idée est arrivée de ce possible retour au jeu le 13 janvier, je vous ai dit, ça prend les deux côtés de la médaille. Puis j'ai dit, nous, on doit respecter qu'il y a des gens qui voient ça d'un regard différent. Parce que, et je m'appelais le dude. Vous savez, un dude, c'est un gars qui est cool, oh, avec ses chums, qui regarde du hockey. J'ai dit, moi, le dude, je suis bien content, mais ça se peut qu'il y en a qui ne soient pas contents. Mais ce soir-là, bienvenue au dude. Ce soir, le dude de hockey qui trippe là-dessus puis qui est content, eh bien, que vous allez être là ce soir puis que c'est ça qu'on va faire ensemble, je vous garantis. Donc, aux alentours de 21h45, peut-être 22h, dépendamment, on va essayer de prendre vos appels pour avoir la chance d'échanger ensemble tout au long de cette soirée à Bonsoir les sportifs. Donc, je vous mentionnais, Bruno Gervais sera avec nous 21h35 pour réagir là-dessus. Pendant qu'il y a d'autres informations qui tombent, entre autres, Elliott Freeman vient de dire les séries de fin de saison seront les quatre premiers de chaque division. Et donc, comme on vous mentionnait, sept clubs canadiens, les quatre premiers, auront accès aux séries de fin de saison, à moins que je me trompe. Ça se peut que je me trompe. Les blessures peuvent changer un paquet d'affaires. La COVID peut changer un paquet de choses. Mais d'après moi, je vois le Canadien dans le top 4 des formations au nord des États-Unis. Là. Clairement, je pense que je vois ça. Je ne sais pas pour vous, puis ça sera peut-être un sujet de conversation qu'on aura avec vous ce soir. Donc, avant Bruno Gervais, aujourd'hui, c'était le bilan de fin de saison du côté de l'Impact. Jérémy Filosa sera avec nous avec des extraits, entre autres, de Thierry Henry, qui a dit « Cher journaliste, je m'excuse mon attitude, mais je suis un gars direct. » Il me semble qu'on a parlé une couple de fois avec notre ami Philo de ce sujet-là. Merci d'être là. Bonsoir les sportifs. Restez là.